Aujourd'hui, nous recevons donc Claude Birman. Vous êtes né en 1951. Vous êtes professeur de chaire supérieure de philosophie en classe préparatoire littéraire à Paris. Vous êtes également maître de conférence à l'Institut d'études politiques de Paris, professeur au séminaire normal d'études juives et au collège d'études juives de l'Alliance israélite universelle, ainsi que directeur de programme au Collège international de philosophie. Vous êtes donc un spécialiste de philosophie morale et politique exégèse biblique et spécialiste de philosophie de la religion ainsi que de la philosophie de l'éducation. Vous avez publié de nombreux articles, dont La loi, le peuple et la terre, dans les collections morales, La responsabilité, la condition de notre humanité, publié aux éditions Autrement 94, et vous avez participé à un livre collectif d'exégèse biblique qui s'intitule Caïn et Abel avec Charles Mopsik et Jean Zatlad aux éditions Grasset, publié en 80. Je vous laisse la parole.
Bien, je commence par remercier Yves Michaud, toute son équipe, qui m'ont fait confiance et qui m'ont demandé de parler du messianisme en 50 minutes, ce qui invite à la sobriété. Alors, je vais essayer, pour la clarté, de diviser mon temps en trois moments, qui tournent autour de trois approches. La première, ce serait d'envisager l'origine de la notion, donc par une sorte d'approche phénoménologique du rite d'onction, ce que je vais expliquer, c'est-à-dire je vais d'abord vous parler de l'huile, puisque le mot Messie signifie le fait d'avoir reçu de l'huile sur la tête. En un deuxième temps, j'essaierai de parler un peu de l'espoir messianique tel qu'il est présenté dans la prophétie biblique, et en un troisième temps, de l'actualité de la question. Autrement dit, comme je l'avais annoncé dans ma présentation, je pense que pour traiter du messianisme brièvement, il faut en considérer l'origine, le développement et l'actualité. Alors, on doit d'abord se situer dans l'étymologie du mot et dans l'apparition historique du rite. Le mot Mashiach en hébreu, c'est un mot hébreu qui est passé dans le grec, le latin et le français, et donc un terme qui veut dire en grec Christos, qui a donné Christ. Hein. Messie et Christ sont des notions interchangeables. Jean, dans l'évangile de Jean, les emploie l'un pour l'autre. Et c'est le même mot qui a donné onctus en latin, c'est-à-dire oint en français, O-I-N-T. On le trouve aussi en araméen, Messia. Et cela désigne quelque chose d'assez précis à l'origine, donc, il y a 3000 ans, qui est un rite, hein, ce que j'appelle ici un rite d'onction, qui consiste à verser de l'huile sur la tête du nouveau roi, et plus précisément de l'huile d'olive. Ce qui peut vous rappeler la reprise de ce rite, par exemple, dans le sacre des rois de France à Reims. Qu'est-ce que c'est que ce rite? Alors, il faut en parler 5 minutes, parce que c'est dans la singularité de l'origine de ce rite qu'on peut le mieux apercevoir ensuite la source de son développement. D'abord, les libations d'huile, et spécialement d'huile d'olive, sont une pratique traditionnelle très courante tout autour de la Méditerranée et dans le Proche-Orient. Les paysans avaient l'habitude, peut-être encore aujourd'hui, par exemple, de oindre le soc de leur charrue, aussi, d'huile d'olive, à la fois pour lubrifier le soc, mais aussi comme pour épargner la terre, hein, selon un rite de fécondité qui est aussi un rite de respect de la terre. Les femmes pratiquaient des libations d'huile sur des pierres brutes. Bon, l'huile a donc une fonction rituelle, l'huile d'olive a une fonction rituelle, dont il faut rappeler bien sûr la symbolique. Cette symbolique est extrêmement riche. D'abord, l'huile adoucit, c'est peut-être la connotation principale. Elle adoucit, c'est-à-dire elle évite les heurts et les frottements. Elle protège ce qu'on on protège quelque chose en mettant de l'huile dessus. Elle tonifie, elle soigne, elle réchauffe, elle nourrit. Et bien entendu, tout ceci d'un côté, c'est pas, elle entretient la vie, elle la protège, elle la facilite, etc. Et en même temps, d'un autre côté, il faut se souvenir que l'huile d'olive, c'est ce dont on tire la lumière. Et donc, l'huile éclaire. Elle éclaire même deux fois, parce que l'huile d'olive, avant même qu'on y ait mis le feu, brille. L'huile brille aussi. Et donc, elle brille et elle alimente la flamme de la lampe. Elle symbolise donc aussi tout ce que symbolise la lumière, l'intelligence et la pureté. Donc prospérité, intelligence, et à la croisée de la prospérité et de l'intelligence, l'ordre et la paix. Pour évoquer cela, on peut, je vais être obligé de faire quelques citations, les textes sont souvent plus parlants qu'autre chose, on trouve par exemple une évocation de l'huile d'olive dans le Coran, dans la sourate 24-35, je prends la traduction de Kazimierski, Dieu, écrit le Coran, est la lumière des cieux et de la terre. Cette lumière ressemble à un flambeau ou à une lampe, à un flambeau placé dans un cristal semblable à une étoile brillante. Ce flambeau s'allume de l'huile de l'arbre béni, de cet olivier qui n'est ni de l'Orient ni de l'Occident, puisqu'il s'agit de l'olivier transcendant, et dont l'huile semble s'allumer sans que le feu y touche. Vous voyez, allusion à cette huile qui est déjà brillante avant même qu'on l'enflamme. C'est une lumière sur une lumière. Dieu conduit vers sa lumière celui qu'il veut et propose aux hommes des paraboles, car il connaît tout. Et un peu plus loin dans la sourate 40, ou plutôt en 24-40, « Si Dieu ne donne pas de lumière à un homme, où la trouvera-t-il ? » Alors, bien sûr, il faut relier ce caractère symbolique de l'huile, shemen en hébreu, de l'huile d'olive, à d'autres symboles majeurs, propres à la simplicité biblique, comme le pain et le vin. Le pain, parfois la figue, et d'un autre côté la vigne, forment avec l'olivier, l'olive et l'huile d'olive. On joue sur toute la symbolique, c'est trois plantes, n'est-ce pas ? Que ce soit le blé ou le figuier, c'est pareil parce que c'est une nourriture substantielle qui permet de constituer, qui est le symbole de la constitution de son être propre. La vigne désigne au contraire un horizon eschatologique, l'ivresse du désir d'avenir, le rêve par opposition à la substance au présent, le pain et le vin qui se retrouvent dans les rites aussi bien juifs que chrétiens, au moins, aujourd'hui encore, et sûrement pour longtemps. Et donc, l'huile vient entière par rapport à ces deux symboles. Très sommairement, ceci renverrait dans la tradition juive à ce qu'on appelle les trois couronnes, c'est-à-dire que l'huile renvoie à la prophétie, symbolise toutes les formes de la prophétie, comme le chandelier, du tabernacle ou celui du temple, qui sont alimentés bien sûr avec de l'huile d'olive, la lumière de la prophétie, et qui à la fois éclaire et réchauffe, qui développe, qui échauffe, comme dit Pascal, instruire et échauffer, quand il parle de la charité, Et en regard de cette prophétie, il y a donc les deux autres couronnes, dit-on en hébreu, les deux autres investitures, qui sont celles de la prêtrise, du côté de la liturgie eschatologique, hein, du côté du vin, et couronne de la royauté, du côté de celui qui apporte le pain, le roi, hein, comme David, qui naît à Bethléem, la ville du pain, la boulangerie, hein, et qui nourrit le peuple, hein, le boulanger, la boulangère et le petit mitron. Voilà. Alors, il faut situer ces trois symboles l'un par rapport à l'autre, hein, les uns par rapport aux autres. Voilà. Voilà ce que, pour présenter déjà le mot même de messianisme. Alors, dans la Bible hébraïque, on utilise beaucoup l'huile d'olive et l'huile d'une manière générale pour consacrer, que ce soit l'huile parfumée, hein, car l'huile retient aussi l'essence des parfums, hein, ou bien que ce soit l'huile tout simplement. Elle sert par exemple à oindre tout ce qui est sacerdotal, les prêtres, les grands prêtres, et puis Aaron, et puis aussi les autres prêtres, mais spécialement le roi. Ce que donc dans la Bible on appelle l'oint, l'oint, O-I-N-T dans les traductions françaises. Et ce qui confère au roi, bien sûr, un privilège, comme on dit, un privilège sacerdotal. Ceci concerne l'ensemble des sociétés de l'époque, ce n'est pas spécial aux Hébreux. Hein. C'est une coutume du Proche-Orient il y a 3000 ans. Même dans la Bible, on voit qu'il arrive que le Dieu d'Israël demande de oindre des rois qui ne sont pas du tout des rois d'Israël. Par exemple, dans le premier livre des rois, Yahvé envoie Élie en 19-15, il envoie Élie oindre Hazaël, le roi d'Aram, et puis pendant qu'il y ait Jéhu, le roi d'Israël, et puis Élisée pour qu'il soit prophète à la place d'Élie. Bon. Donc il y a cette espèce d'inflation du rite d'onction. Bon. Et on trouve dans une lettre d'elle à Marna, hein, pour être un moment... savant, pour se référer au travail des archéologues, l'onction d'un roi cananéen par le pharaon Toutmosis III. Hein, donc ce n'est pas une coutume spécifique des Hébreux à l'origine, c'est une coutume, même pas seulement des Sémites du Proche-Orient, puisque même le pharaon oint. Bon. Mais la différence, tout de suite, c'est que pour le peuple israélite, l'onction fait le roi plus que le couronnement. Et ceci, on le voit dans un verset du livre 2 des rois, qu'on peut regarder un moment, et qui est le verset où le fils, au livre 2 des rois, chapitre 11, verset 12, où le fils du roi qui avait été retenu prisonnier, c'est l'histoire d'Athalie, pour ceux qui ont lu Racine, va être fait roi, et donc on le fait sortir, on lui impose le diadème, Nézer, on lui met la couronne, n'est-ce pas ? Et tous les attributs du roi, et on lui donne l'onction royale. Et alors, il devient roi. Ce qui donne dans la traduction très littérale, et donc souvent éclairante d'André Chouraki, ils le firent roi, ils le font roi, il traduit au présent. Hein. Ils le font roi, et en hébreu c'est un verbe. Hein, c'est littéralement, il faudrait dire, ils le roïsent. Hein, ou le roiifie, hein. Vayam lichou, ils le font roi, virgule, et ils le messient, c'est-à-dire qu'en hébreu c'est un verbe, messier, hein, qui n'existe pas en français, hein. On traduit donc, ordinairement on lui donne l'onction, mais Chouraki traduit, il le messie, vayim shachrou, hein, battent des paumes et disent, vive le roi. Hein, et c'est, ce verset montre comment l'onction est en fait la condition d'accès à la royauté. Cette onction va être réservée par les prophètes hébreux au roi d'Israël, sauf exception. Il arrive ainsi que, comme vous savez sans doute, qu'Isaïe considère comme Messie Cyrus le Grand, le roi des Perses, dans la mesure où il a libéré Israël de sa déportation à Babylone et rendu possible la reconstruction du Temple. Alors, c'est là qu'est peut-être le point central de la question. de mon exposé, c'est que ce privilège de l'onction sur le couronnement fait apparaître la dimension propre du rite d'onction chez les Hébreux, qui est en relation avec l'apparition du monothéisme biblique. Il ne s'agit plus seulement de consacrer le roi en regard du ou des dieux du peuple, mais de le consacrer au service du Dieu d'Israël, qui, pour les Hébreux, est en même temps non pas un Dieu parmi les autres, mais le vrai Dieu, le Dieu de tous. Je cite un document épiscopal français qui date de 1973 et qui écrit « C'est par le peuple d'Israël que la foi en Dieu, au Dieu unique s'est inscrite dans l'histoire de l'humanité. » Ceci donne un caractère sublime à cette onction, puisque l'onction du roi d'Israël n'est plus l'onction d'un homme destiné à protéger de toutes les manières seulement son peuple. Bien sûr, il est d'abord choisi pour être au service du peuple, pour que le peuple soit dirigé par un roi, mais comme un gros bateau serait dirigé par un remorqueur. C'est le roi qui va permettre au peuple de se défendre contre ses ennemis, par exemple, qui va assurer la paix civile et qui va assurer la prospérité et bien d'autres choses, la civilisation, la culture. Bref, le peuple lui confie le pouvoir pour son bien à lui, au peuple. Bon. Néanmoins, ici, ce qui complique les choses, c'est que le roi du peuple d'Israël n'est pas seulement au service du peuple d'Israël, mais quand il s'occupe de préserver Israël, il préserve le peuple du monothéisme. Et ce peuple lui-même a une double conscience dans l'Antiquité biblique, et peut-être jusqu'à aujourd'hui, d'être à la fois un peuple particulier qui doit veiller à se préserver, mais non pas seulement en vue de son intérêt propre, mais en tant que dépositaire d'un message universel. C'est pourquoi, sans doute, ce peuple s'est acharné à subsister. Le peuple lui-même est consacré. Alors, c'est là que j'avais envisagé un tout petit schéma pour comprendre la situation très simplement. La situation de l'onction, je prends un exemple, l'onction, la première onction d'un roi dans la Bible, c'est donc dans le livre 1 de Samuel, au chapitre 10, verset 1. Samuel prend une fiole d'huile et la répand sur sa tête, la tête de Saül. Il l'embrasse et il lui dit, « Oui, Yahvé ne t'a-t-il pas oint, messier, hein, dit Chouraki, comme guide sur sa possession ou son domaine, Nahalato. Hein, possession ou le domaine, c'est le peuple d'Israël qui est une possession, hein, qui, dans le langage biblique, a été sorti d'Égypte, non pas pour lui, mais pour servir, en quelque sorte, de peuple témoin de l'alliance du Sinaï, qui a une vocation universelle. Alors, la situation de l'onction du roi, il faut se la représenter, elle est très proche, curieusement, de la pensée politique moderne, hein, puisqu'elle suppose un peuple qui est déjà conscient de lui-même, qui est déjà associé par un pacte, on pense au pacte social de Rousseau, tel qu'il se trouve déjà formulé dans l'Exode, hein, le peuple hébreu au Sinaï jure allégeance à la loi du Sinaï et se constitue comme tel, comme peuple, avant tout pouvoir politique. Et ensuite, quand il veut un roi pour le défendre contre ses ennemis et pour lui assurer donc tous les biens possibles qui sont symbolisés justement par l'huile, hein, protection, prospérité, lumière, etc. Le choix de ce roi, ce qui préfigure, c'est pas ce qui fait la modernité du texte biblique, puisque le roi est roi par une délégation de souveraineté et non pas par tyrannie. Bon. Eh bien, cette investiture du roi dépend du prophète. C'est-à-dire que le peuple ne se choisit pas tout seul un roi, il demande au prophète éclairé de reconnaître qui mérite d'être le roi. Et c'est cela l'investiture. Le prophète lui-même a besoin, donc, d'une inspiration, d'une prophétie, qui va lui indiquer qui pourra être le roi adéquat. Dans la simplicité du langage biblique, alors, c'est très compliqué, parce que, en fait, au début, le prophète ne veut pas donner de roi au peuple, parce qu'il a peur que le roi devienne un tyran. Il y a plusieurs versions de l'intronisation de Saül dans la Bible. Il y a la version, comme on dit, sacerdotale, la version monarchiste. Et Dieu, finalement, Dieu n'est pas content que le peuple veuille un roi, mais en même temps, il demande au prophète de choisir Saül. Donc il veut et ne veut pas. C'est très complexe. Mais on voit bien le problème. Le problème, c'est qu'il faut que le roi soit à la fois au service du peuple et non pas son maître, mais qu'en même temps, ce roi soit à la fois efficace, mais investi comme serviteur du Dieu d'Israël, c'est-à-dire que la manière dont il doit régir le peuple d'Israël doit assurer, si l'on peut dire, la messianité du peuple lui-même, c'est-à-dire qu'il doit assurer le fait que le peuple témoigne de l'alliance du Sinaï et non pas simplement serve ses propres intérêts, comme c'était le risque au moment du veau d'or. Voilà un petit peu le schéma qu'il faut avoir en tête pour comprendre la situation de l'apparition du roi Messie. Alors, on peut se permettre une seconde de relaxation avec l'intronisation, la belle, le beau récit qui présente l'investiture du roi David. Voilà, j'ai mis des petits papiers partout, juste là où il faut. Alors, voilà. Donc, vous vous souvenez ce récit. Samuel vient rendre visite à Ishaï, le père de David. C'est donc chapitre 16 du premier livre de Samuel. Lorsqu'il fut entré et qu'il vit Éliab, l'un des fils de Ishaï, Samuel dit, « Certainement, loin de Yahvé et devant lui. » Et Yahvé dit à Samuel, « Ne prends pas garde à son aspect et à la hauteur de sa taille. Je l'ai écarté, car ce n'est pas comme l'homme voit, ce n'est pas comme l'homme voit que Dieu voit. L'homme voit le visage, mais Yahvé voit le cœur. » Donc, le premier est disqualifié. Ishaï appela Abinadab et le fit passer devant Samuel, lequel dit, « Ce n'est pas encore celui-ci que Yahvé a choisi. » Ishaï fit passer Shamma et le voyant dit, ce n'est pas non plus celui-ci que Yahvé a choisi. C'est comme Socrate, il est retenu, il ne peut pas choisir. Ishaï fit passer ses sept fils devant Samuel, et Samuel dit à Ishaï, Yahvé n'a pas choisi ceci. Alors Samuel dit à Ishaï, sont-ce là tous les jeunes gens? Il répondit, il y a encore le plus jeune, et voilà qu'il fait paître les brebis. Samuel dit à Ishaï, envoie-le chercher, car ne nous mettrons pas à table qu'il ne soit venu ici. Ishaï l'envoya chercher. Or, il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. Yahvé dit, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel, ayant pris la corne d'huile, l'oignit au milieu de ses frères, et l'esprit de Yahvé fondit sur David à partir de ce jour et dans la suite. Voilà, ça c'est le célèbre récit de l'onction, donc du vrai roi Messie, puisque le premier, Saül, était un coup pour rien, d'une certaine manière. Hein, c'est en deux fois que le roi Messie est oint. Voilà. Alors, cela étant, bien entendu, on pourrait encore, on n'a pas le temps, évoquer la prophétie qui accorde à la dynastie de David la royauté messianique, prophétie de Nathan, dans le deuxième livre de Samuel. Cela suffit sur ce point. Nous avons suffisamment caractérisé ce que signifie le messianisme dans le livre de Samuel et dans l'onction des rois d'Israël. Ces rois de Juda, comme vous savez, disparaissent, c'est-à-dire que le peuple d'Israël autour de ses rois et de son temple va connaître un désastre national, c'est-à-dire que tour à tour, les différents royaumes d'Israël et de Juda sont détruits. Et donc, d'une certaine manière, le roi Messie n'est plus. Hein. Et donc, que devient à ce moment-là le messianisme ? Alors, il y a deux options. Il y a une option radicale qu'évoque le spécialiste du mysticisme juif Moshe Hidel. Il évoque une formule talmudique qui dit « Israël n'a plus de Messie » parce qu'il a été dévoré par les hommes de la génération d'Ézéchias. Ézéchias qui était le dernier roi valable, si l'on peut dire. Hein, et puis ensuite, tout est parti, donc Israël n'a plus de Messie. Et il y a une tradition rabbinique selon laquelle le messianisme est une catastrophe parce qu'à partir du moment où on n'a plus de Messie, ce n'est pas la peine de faire semblant. Hein, parce qu'à ce moment-là, cela ouvre la porte à ce qu'on appelle le faux messianisme sous toutes ses formes et les illusions. Donc il y a une réticence traditionnelle rabbinique à l'égard du messianisme en tant qu'il provoquerait des extravagances. Pas le temps d'en parler, mais toute l'histoire des mille et mille et mille faux messies dans l'histoire d'Israël, soutenue par la nostalgie du peuple à l'égard de sa souveraineté nationale. Néanmoins, cependant, le messianisme revit dans les prophètes. Pourquoi ? Eh bien parce que, je crois que c'est l'idée importante, c'est que les prophètes d'Israël, et notamment les grands prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, et là, les cités pourraient prendre des semaines, tellement il y a de versets qui concernent cette question, vont insister sur l'idée que, même si le peuple d'Israël connaît des désastres nationaux, dans la mesure où il ne vit pas que pour lui, il ne peut pas disparaître. Il n'a pas le droit de disparaître, il doit renaître. Parce que il existe pour porter le message universel de la loi du Sinaï, du Décalogue. C'est ça qui fait la force de conviction des prophètes, c'est cette signification universelle de la présence d'Israël au monde. C'est pour cela, sans doute, que le peuple d'Israël n'a pas disparu comme mille autres peuples de l'Antiquité. Et je citerai seulement peut-être quand même une phrase d'Isaïe là-dessus. Le chapitre 11, par exemple. Une pousse sortira du tronc de Jessé, de Ishaï, nouveau, et ses racines... de ses racines croîtra un rejeton, Isaïe qui vit à une époque de déclin du premier royaume du 8e siècle, le royaume du premier temple, annonce plusieurs fois, dans plusieurs textes, mais notamment dans ce chapitre 11, la venue d'un Messie. Sur lui reposera l'esprit de Yahvé, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Yahvé. Il prend une dimension surnaturelle. Il mettra ses délices dans la crainte de Yahvé, il ne jugera pas d'après ce que verront ses yeux et il ne rendra pas ses arrêts sur ce qu'entendront ses oreilles, etc. Il jugera les petits avec justice et rendra des arrêts équitables pour les âmes de la terre. Le Messie, c'est le roi de justice. Là, il y a une tradition messianique qui commence et qui, en quelque sorte, est une dénégation de l'événementialité historique. Jusqu'à cette cette référence que je prends dans Ézéchiel, que j'aime bien parce qu'elle est la plus vigoureuse, au moment de la fameuse vision de la résurrection des morts, au chapitre 37 d'Ézéchiel, Isaïe, lui, écrit, annonce le Messie à une époque de déclin de la, du peuple et de la royauté d'Israël au 8e siècle, avant Jésus-Christ, alors que Ézéchiel, lui, écrit une fois que tout s'est effondré, après que les Hébreux ont été déportés à Babylone. Et il annonce, là, littéralement, la résurrection du peuple, dans sa fameuse vision des ossements desséchés qui se rassemblent et revivent. Et je cite, je ne peux pas lire tout ça, je cite juste un passage, donc chapitre 37, verset 11. Alors il me dit, c'est Dieu qui parle à Ézéchiel, « Fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël, ces ossements qui vont revivre. Ceux-ci disent, ceux-ci c'est les hommes dispersés d'Israël qui sont comme des ossements desséchés, hein. Ils disent, nos os sont desséchés, notre espoir, tikva, hein, le mot des prophètes, notre espoir est perdu, c'est là l'origine de toute la notion d'attente et d'espérance messianique, c'est dans ce mot espoir. Notre espoir est perdu, c'en est fait de nous. Eh bien, donc Ézéchiel ouais, fait parler les Hébreux ici, et puis il répond, hein, Dieu répond, enfin c'est Dieu qui fait parler les Hébreux, hein, c'est tout un dialogue. Hein. Eh bien, prophétise et dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je rouvre vos tombeaux, puisque vous êtes des eaux desséchées, je rouvre vos tombeaux, et je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple, et je vous ramènerai au pays d'Israël. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel quand j'aurai ouvert vos tombeaux, et quand je vous aurai fait remonter de vos tombeaux, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous serez vivifiés, et je vous assoirai sur votre sol, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel qui est parlé et qui exécute, dit l'Éternel. C'est certainement, à mes yeux, de l'immense littérature prophétique, c'est certainement le verset le plus vigoureux, c'est l'origine de la notion, bien entendu, de résurrection des morts, hein, qui a connu ensuite un grand développement dans la liturgie juive et dans la pensée chrétienne. Il s'agit donc de dire que même si le peuple est détruit, déporté, dispersé, le réveil est possible. Pourquoi ? Parce que ce peuple a une mission qui le dépasse et qui fait qu'il doit demeurer existant ou revenir à l'existence pour témoigner de sa mission. Alors, il est temps maintenant d'aborder la troisième partie. La première partie, c'était de vous présenter un peu l'huile messianique, hein, l'huile du Messie ouin. La deuxième partie que j'ai brièvement, et auquel j'ai fait allusion dans le temps qui m'est imparti, c'est donc le thème de l'espoir dans la prophétie biblique. Cet espoir, vous voyez, il faut y faire attention, et l'espoir du réveil du peuple, et non plus seulement, comme chez Isaïe, l'espoir de la venue d'un nouveau roi. C'est-à-dire que Ézéchiel ici, plus radical qu'Isaïe. Hein? Il faut dire aussi que le peuple a été détruit du temps d'Ézéchiel. Hein? C'est-à-dire que celui qui est porteur de l'espoir messianique, et plus que porteur, supporteur, quelque sorte, hein? Celui qui soutient, hein? Ce n'est pas le roi, c'est le peuple. Le roi est un roi messie parce qu'il est le roi du peuple investi de la mission de témoigner de la loi. De la loi du Sinaï qui, révélait aux Hébreux, dans le récit biblique, la signification universelle du droit. Voilà pour la prophétie. Maintenant, avançons un petit peu, pas à pas, vers une actualisation du thème. Alors, il convient d'abord, sur ce point, de remarquer, ici mon schéma va vous être utile, que le messianisme juif, tel qu'il a été pensé par la tradition prophétique, puis talmudique, et puis médiévale, est un messianisme si j'ose dire, ramifié. En effet, vous voyez mon schéma. Qui s'occupe de témoigner du Messie? Est-ce que c'est le peuple? Du messianisme plutôt, hein, c'est-à-dire finalement qui s'occupe de témoigner de la présence d'un message universel de paix sur terre, du point de vue de la tradition des Hébreux. La fameuse sagesse d'Israël, qui en est dépositaire? Est-ce le peuple? Le naguide, le dirigeant, les dirigeants du peuple, ou les sages, les scribes, les prophètes? Vous voyez, il y a, en fait, il y a bien ici trois directions. Et je crois que, sans trop simplifier, on peut faire apparaître que ces trois supports, en quelque sorte, de l'espoir messianique ou du projet messianique, ces trois supports correspondent aux trois dimensions du messianisme dans la tradition juive, qui sont annoncées dès la bénédiction des fils de Jacob à la fin de la Genèse. Je m'explique brièvement sur ce point, à la lumière de la thèse de Jean Zaclade dans son essai d'ontologie biblique. Le messianisme, nous dit Jean Zaclade, c'est trois choses. C'est d'abord une droiture, mais non pas simplement une droiture morale, mais la droiture d'une démarche, d'une succession des générations dans le temps qui est orientée vers un avenir messianique, précisément. Cette droiture, ceux qui la portent, c'est le peuple. En tant que le peuple s'attache, avec plus ou moins de bonheur, à la fidélité au pacte qu'il a conclu avec son Dieu dans le désert. Et il y a comme une avancée du peuple d'Israël dans le temps, qui est reprise à l'époque moderne par l'idée d'un progrès de l'humanité. La caravane humaine de Lamartine, d'une certaine manière, est la transposition et la sécularisation la marche des Hébreux, d'abord dans le désert et puis dans l'histoire. Donc l'idée d'un peuple en marche, c'est cela d'abord la notion messianique. Comment est-ce que cette droiture peut se manifester? Par le fait que les hommes, dans leur tentative d'assumer leur liberté dans le temps et l'histoire, font preuve, autant que possible et le plus possible, du sens de la justice. Cependant, vous voyez, cette droiture est confrontée à mille et un empêchements qui sont liés notamment à l'obscurité qui règne dans le monde des hommes, qui ignore, soit qu'ils ignorent, soit qu'ils méconnaissent délibérément, leur propre liberté et le sens de la justice. C'est pourquoi il ne suffit pas de se conduire avec droiture, et il faut, si on se conduit avec droiture dans un monde qui ne se conduit pas avec droiture, on est de plus en plus laminé, hein, et on devient tout petit. Hein, on peut rester irréductible, hein, comme le village d'Astérix, mais on est en quelque sorte de plus en plus réduit. Hein. Heureusement, il y a un relais à cela, qui est une autre dimension du messianisme, qui serait du côté du prophète, ici, que l'on peut dire, en d'autres termes, que celle du sens de la justice, et qui est plutôt, justement, tout ce qui touche à l'éducation et aux lumières. Hein, relève donc de cette autre dimension messianique, non plus selon Judas, mais selon Joseph, dans la typologie biblique, le fait que les hommes peuvent répandre dans un monde injuste, sous mille et une formes, le sens de la justice, sans que ce sens de la justice soit en quelque sorte dominant. Hein, comme Joseph en Égypte, qui sert le Pharaon, mais qui éclaire l'Égypte de l'intérieur. L'évangélisme, par exemple, dans la mesure où il se répandait dans l'Empire romain, sous la tyrannie du bas-empire, et gagner les cœurs, correspond à ce type de messianisme, mais aussi, d'une manière générale, ce qu'on appelle les Lumières, qu'elles soient médiévales ou modernes. Et enfin, la troisième dimension du messianisme, Jean Zaclade l'appelle, sous le signe de Benjamin, l'autre fils de Jacob de la typologie messianique biblique, il appelle le messianisme de la contestation. Voyez, donc non plus seulement affirmer un sens de la justice ou bien éclairer les cœurs et les esprits, voyez, mais une troisième dimension qui est la contestation de tout ce qui s'oppose à ce projet, soit sous forme de dissidence, soit sous forme d'ingérence. Benjamin est décrit, vous voyez, alors ça revient à toute un bestiaire dans la Bible, où Benjamin est décrit comme un loup qui poursuit sa proie, tandis que Judas est comme un lion qui règne, et Joseph, lui, comme un taureau qui féconde, en quelque sorte, par ses lumières, l'ensemble de l'humanité. Et c'est pourquoi, bien entendu, ce messianisme, même dans la tradition hébraïque, il faut être très clair, même dans la tradition rabbinique, a une dimension universelle, au sens où ce ne sont pas les juifs, les hébreux ou les juifs, qui sont le moteur de l'histoire, comme dit en plaisantant M. Hidel, mais que c'est la sagesse d'Israël qui pense cet avènement de la lumière, des lumières et de la justice dans l'histoire, qui en est le témoin. Un actant conscient parmi d'autres actants, parfois moins conscients. Alors, cela, comment dire, a pu conduire historiquement à une scission entre deux formes de messianisme très opposées. Vous vous souvenez peut-être que, en partie par manière de plaisanterie, mais peut-être aussi en un sens profond, lorsque Jean XXIII avait accueilli une délégation du peuple juif au Vatican, après un certain nombre de siècles de tensions, il leur avait dit, à l'époque, avant annonçant Vatican II, n'est-ce pas, « Mes frères, je suis Joseph. » Reprenant, bien sûr, la parole biblique. Alors, bien entendu, ça n'est pas si simple. Joseph est partout. Il est partout où il y a, le sens des lumières, ou le sens de la raison et de la morale qui se répand, le sens de l'éducation de l'humanité, l'éducation du genre humain, comme disaient Lessing. Et Judas est partout où des hommes affirment leur sens, affirment individuellement et collectivement un sens de la justice intransigeant. Mais cela peut créer des divergences, et on sait par exemple que le messianisme tel qu'il a été entendu par les premiers chrétiens, et à leur suite, je me réfère à la formule de l'évangile de Marc, où Pierre, lorsque Jésus demande à ses disciples « Qui croyez-vous que je suis ?» et Pierre lui dit « Tu es le Messie. » Tu es le Messie. Jésus ne dit pas lui-même qu'il est le Messie, mais c'est Pierre qui est le Messie. Et à ce moment-là, Pierre lui dit, surtout ne le dis pas. Car ce Messie n'est pas un Messie politique, ce Messie est un Messie spirituel. Et toute la puissance de la spiritualité chrétienne, c'est d'avoir désinvesti le terrain politique pour se développer dans le royaume du cœur. Cependant, la modernité, après l'époque médiévale, avec l'apparition de la sécularisation, comme on dit, c'est-à-dire la prise au sérieux de la réalisation des conditions réelles de la justice, a commencé à réenvisager sérieusement, avec Machiavel, la question des prophètes armés. Et nous vivons encore sur cette tension entre tradition spirituelle ou religieuse et modernité, affirmation sécularisée, laïcisée, d'une modernité responsable, d'une responsabilité politique. C'est pourquoi Hegel disait, retournait le verset de l'Évangile en disant « Rendez à César ce qui est à César », non pas au sens de se désintéresser de la politique, mais d'accorder à la politique ce qui lui revient. Voici une phrase de Malachie, chapitre 3, verset 24, que Jean Zaclat cite comme étant l'exemple d'une promesse prophétique. Malachie écrit à propos d'Élie, le prophète Élie, qui symbolise le sens de la vérité. « Élie ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. » Et Jean Zaclat, commentant ce verset, écrit « Le visage d'une humanité unique transparaît derrière la tentative des pères qui perpétue les mérites anciens selon les traditions ancestrales et celle des fils qui prennent leurs responsabilités dans un monde moderne sans trop se soucier des vieilles traditions. » On a donc cette idée qu'appartient au messianisme le fait que se rencontrent les traditions religieuses et les affirmations laïques de la modernité. Le message messianique est résumé dans une formule saisissante de l'Apocalypse, au chapitre 21, qui reprend, qui s'inspire de phrases d'Isaïe et qui écrit « Il n'y aura plus ni mort, ni larmes, ni cri, ni peine. » Alors, il est temps de conclure. Quelle est l'idée ? L'idée messianique, c'est qu'il y a des conditions concrètes de justice, de paix mondiale, de responsabilité politique, de droit à établir, qui sont en quelque sorte les conditions matérielles, si l'on peut dire, hein, si on peut s'exprimer ainsi, qui seraient les conditions matérielles, les conditions réelles, dans lesquelles une humanité réconciliée pourrait exister et en quelque sorte s'épanouir d'une façon qui peut être, si l'on a une conception mystique du messianisme, aboutirait à transformation radicale. En tout cas, cette visée messianique est aujourd'hui déposée en grande partie dans l'idée d'un droit international qui indirectement s'en est inspiré et qui a abouti déjà à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui parle dès son premier article, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Dès le premier article de la Déclaration universelle, il est question de fraternité. Et cette fraternité résonne évidemment comme un écho on peut appeler la promesse messianique. Je vous invite à cette occasion à relire toute la déclaration et vous y verrez en de nombreux points la description de ce que pourrait être un monde humain si tous ces droits étaient assurés, y compris le droit de résister à ceux qui, c'est l'article 29, qui empêchent le développement et le respect de ces droits. Je crois que mon temps est écoulé, à peu près, donc je vous remercie de votre attention.
Vous avez parlé du droit international à la fin de votre exposé Mais se pose tout de même la question de son application dans la pratique, dans la réalité des sociétés, et ça fait quand même problème, quoi, l'application des normes du droit international, qui représente plus une visée, finalement, au fond, qu'une réalité dans son application.
Je réponds sobrement à chaque question pour qu'il puisse y en avoir plusieurs. Faites attention à ceci, que la déclaration, une déclaration de droit n'est pas seulement une visée, parce qu'elle exprime le fait qu'elle ait été rendue possible. S'il n'y avait pas eu l'accord entre Roosevelt et Churchill au large de Terre-Neuve le 16 mai 1941, s'il n'y avait pas eu la Charte des Nations Unies et la victoire des Alliés, il n'y aurait pas eu la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est donc très matériellement l'expression d'une victoire. Une victoire, comme on le dit communément, des démocraties sur les dictatures. Laquelle victoire, bien entendu, est très loin d'être achevée et suppose peut-être, justement, pour que soit achevée, que l'ensemble des pays deviennent démocratiques et que pour cela, ils accèdent à la prospérité économique. Mais je dirais seulement que l'application de la déclaration, la nécessité de son application, justement, est dans la déclaration. C'est l'article 29 qui prévoit qu'on doit, l'individu a des droits envers la communauté, a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible. Ses droits et libertés ne pourront en aucun cas s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies. Donc c'est une disposition qui prévoit justement que le droit international puisse acquérir force de loi dans la mesure où il disposerait des moyens politiques et économiques de son affirmation. Donc évidemment, je crois qu'il ne faut pas tomber dans l'illusion que ces droits seraient purement formels. Ils expriment un certain rapport de force, et il ne faut pas tomber non plus dans l'illusion que l'histoire, comme on dit, serait accomplie.
Merci beaucoup. Une question en haut à droite, madame.
Par rapport aux choses très importantes que vous avez dites, j'ai une toute petite question. Vous avez évoqué quelques animaux et j'aurais voulu savoir si vous pouviez nous éclairer sur ce que signifie et ce que symbolise en religion le cerf et le paon et pourquoi. Ou alors nous renvoyer à de la bibliographie.
Non, je ne peux pas... Ça nous éloignerait trop de notre sujet. En ce qui concerne le paon, je ne sais rien. Mm. Et en ce qui concerne le cerf, ce n'est pas assez lié à notre propos.
D'accord. Merci. Oui.
Une autre question. Vous pouvez regarder, par exemple, le dictionnaire des symboles sur ces questions. Voilà une référence. Oui.
Monsieur, oui, au milieu à gauche.
Oui, ici.
Oui, je vois.
Bon, et en ce qui concerne tout d'abord le problème de l'Égypte, je voudrais vous rappeler une chose, c'est que depuis Maspero jusqu'à Madame de Rochenoblecourt, on a signalé le fait que le peuple hébreu n'a jamais passé par l'Égypte, qu'il n'y a pas de traces, que par contre il y a des traces des Cananéens. Ça, c'est autre chose. Et après, en ce qui concerne la promesse messianique, je vous rappelle qu'elle n'implique pas la fraternité, mais c'est la promesse de la domination universelle, et c'est la raison pour laquelle Esaïe 60:11 dit « Et tous les peuples qui ne voudront pas te servir devront être exterminés. » Et comme médiation de ce processus, il y a la donation, et rappelez-vous que le livre de Josué accomplit les ordres de l'Éternel et ne laisse pas un seul être vivant. Merci.
Ce n'est pas une question.
Alors, une autre question. Je vois une main levée tout en haut.
Bon, je dirais quand même simplement que, bien entendu, ce type de développement est, sur le premier point, sur les questions d'histoire et d'archéologie, bien entendu, il a toujours été clair que le récit biblique est un récit et qu'il a une signification éthique et non pas historique. Quant à la réalité historique, peut-être qu'on la connaîtra mieux plus tard. Bon. Ensuite, quant au fait que le messianisme dans le texte prophétique n'aurait pas cette dimension de fraternité, ça, à mes yeux, ça va tout à fait contre l'évidence des textes. Par contre, qu'il y a un langage de la violence, évidemment, hein, dans la mesure où cette affirmation est l'affirmation, effectivement, c'est toute la difficulté, c'est l'affirmation de prophètes armés, hein, bien sûr. Hein, ce n'est pas seulement un message spirituel, et c'est pour ça que j'ai indiqué que c'est ça qui fait la modernité de la Bible aussi. Hein, c'est qu'un message purement spirituel suppose une indifférence au progrès réel des sociétés. Hein, la spiritualité ne fait pas le progrès. Hein, ça, c'est déjà ce que Machiavel a montré. Or, les textes bibliques le montrent. Quant au livre de Josué, qu'on évoque toujours, je vous renvoie aux études spécialisées, il est tout à fait reçu maintenant auprès des spécialistes que ce texte est une pure fiction épique.
Merci. Tout en bas à droite, monsieur.
Oui, bonjour, monsieur. Alors, comme vous avez fait référence presque en permanence à des textes bibliques, je voudrais vous demander, poser une question un peu naïve, mais est-ce qu'il faut considérer ces textes ?
On vous entend mal.
Alors, comme vous avez fait en permanence référence à des textes bibliques, je voudrais vous poser une question un peu naïve, mais dans le cadre des croyances en général, est-ce que vous pensez qu'il faut considérer ces textes sous un regard traditionnel, c'est-à-dire en référence à... Ils ont été dictés par un Dieu vrai, donc des croyances vraies, ou bien est-ce que porter un regard moderne, comme quoi ce pourrait être des croyances parmi d'autres, mais néanmoins, dans lesquelles on pourrait tirer des éléments philosophiques, donc les placer dans la modernité.
Bon, j'ai évidemment très brièvement, j'ai fait allusion à cette question, avec la prophétie de Malachi, justement. Hein, je crois très profondément que il appartient à la pensée moderne de faire un usage libre des traditions. Vous comprenez, si la pensée moderne se détourne des traditions, alors elle les abandonne à d'autres qui sauront en faire un usage redoutable. Il faut donc que l'homme moderne s'approprie ces traditions comme un fils se tourne vers son père. Et inversement, il appartient aux traditionnaires, hein, de reconnaître dans la modernité leur héritage. À ce moment-là seulement, la conciliation entre... à ce moment-là, on aura, comme dit très bien Aragon, ce que je cite souvent, la rose et le réséda, hein, c'est-à-dire que l'affirmation d'une modernité sans fondement spirituel est aussi vulnérable que l'affirmation d'une tradition spirituelle sans liberté d'action moderne. Vous voyez, s'il y a des traditions, c'est pour encourager à la liberté. Et s'il y a une liberté, elle suppose de se ressourcer dans ses fondements traditionnels.
Merci beaucoup. Une question tout en bas à gauche, monsieur.
Oui, je trouve que la notion de Messie, qui est partie d'un individu oint par une huile et qui peut à la rigueur être attribuée à Cyrus, par exemple, qui n'a aucune valeur religieuse, est passée progressivement à la notion de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais est-ce qu'il ne reste pas un groupe religieux, théologique, qui pense que la notion de Messie, consistant en un individu envoyé par Dieu pour délivrer le peuple d'Israël de ses ennemis et lui rendre la force et la puissance, est-ce que ce point de vue, qui est un point de vue que je croyais banal, est complètement éliminé, même par les groupes de juifs orthodoxes?
Pas du tout. Toutes les croyances doivent être considérées, les plus naïves et les plus savantes. Hein. Sur ce point, je vous renvoie à une très jolie page d'Emmanuel Lévinas, dans un article de 1960, que je n'ai pas eu le temps de citer tout à l'heure, que je trouve éclairant. C'est un article sur la laïcité, hein, et où il parle de l'idée messianique comme fondement de la société, et voici ce qu'il écrit. « La nouveauté de l'apport juif, hein, donc l'apport messianique antique, consiste à affirmer les dimensions planétaires de la société humaine. L'idée d'un accord possible entre les hommes, obtenu non pas par la guerre, mais par la fraternité. Apport essentiel. L'idée d'humanité suspend la menace de la guerre qui pèse sur toute justice simplement nationale. » Hein, car bien sûr, les Grecs, par exemple, avaient inventé une justice et tout, mais à l'échelle de la cité. Et dès qu'on est pris dans une guerre avec l'adversaire, il n'est plus question de justice. Donc le fondement de la justice, c'est la paix universelle. C'est l'idée de la fatalité de la guerre sur laquelle vit le monde antique qui empêche sa morale de s'affranchir de la politique. Voici ce qu'écrit Lévinas. Hein, et il ajoute, le monothéisme juif, en découvrant une humanité fraternelle, et non seulement une humanité faite d'individus semblables, comme ceux qui sont nés de pierres que Deucalion jetait derrière soi, découvre une morale éternelle indépendante de la politique. Donc je vous répondrai, monsieur, qu'avec Lévinas, que dans la tradition juive, l'éthique est plus fondamentale que la religion. Hein ? Et c'est pourquoi, justement, j'ai insisté dès le début sur la différence entre le prophète, qui est du côté de l'éthique, et le prêtre, qui est du côté de la liturgie cultuelle, qui a pour but de représenter dans les cérémonies religieuses la croyance à la possibilité d'une vie éthique. Mais ça n'est pas la même chose, la religion et l'éthique. L'éthique est première. C'est ça la signification du monothéisme, en tout cas du monothéisme biblique. Et sur la base de l'éthique, eh bien, on peut développer des pratiques communautaires et confessionnelles, des religions éthiques, et des politiques répondant à ce qu'on appelle l'état de droit. Et Lévinas n'a pas de mal à montrer que, par exemple, l'idée d'un droit des gens et d'un jus gentium, développé au XVIe siècle, par exemple, par avant Grotius, par Zeldon, hein, s'inspire expressément et explicitement, donc, finalement, de ce projet messianique de paix universelle et de droit international, hein, au sens où Isaïe parlait de la paix messianique, où donc on ne je l'ai là, je vous le rappelle, hein, c'est la plus belle page de la Bible, hein, 8e siècle avant Jésus-Christ, hein, de Sion sortira l'enseignement et de Jérusalem la parole de Yahvé, il sera l'arbitre entre les nations et jugera bien des peuples. Ils forgeront leurs épées en socs de charrue et leurs lances en faucilles. Une nation ne lèvera plus l'épée contre l'autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de Yahvé. Isaïe 2. Voilà, je crois, un texte tout à fait traditionnel et tout à fait fondamental pour le monde moderne et qui a une signification, éthique avant d'être religieuse. J'ai l'habitude de dire que si ces textes et ces formes de pensée ont donné lieu au développement de grandes religions, voyez, c'est que leur intérêt est d'abord éthique et non pas l'inverse. Ce n'est pas parce qu'ils sont religieux qu'ils sont intéressants, mais parce qu'ils sont éthiques qu'ils ont permis l'épanouissement de liturgies religieuses. Et certainement que cela continuera dans l'avenir, sous différentes formes et en coopération, comme je l'ai écrit dans la présentation de cette conférence, en relation étroite avec les autres formes de vie éthique et religieuse dans le monde. Je pourrais témoigner de propos que tenait récemment à ce sujet même le Dalai Lama, par exemple, expliquant que l'avenir n'était pas à la religiosité, mais au contraire au développement de l'éthique, qui peut donner lieu à des croyances, peut donner lieu à des ferveurs, peut donner lieu à des vies, à des expériences religieuses tout à fait authentiques, mais ne s'y réduit pas.
Merci beaucoup. Juste, une question tout en haut.
Juste, c'est exactement dans cet aspect-là. Je repense à la conférence du 21 janvier, Jacques Bouvreuse, « Comment s'orienter dans la pensée ?» qui était la reprise d'un thème de Kant à la fin de l'époque des Lumières. Pourquoi ça va dans cette articulation de la modernité et de la foi, cette marche de l'humanité, hein, le messianisme, même dans la religion chrétienne, c'est un constant appel au discernement. De pas avoir une pensée qui est utilitariste, que ça soit pour la politique, pour ça, par sa pensée personnelle, comment je m'oriente moi dans ma pensée et quelles sont mes valeurs, c'est-à-dire pas une morale qui euh,
qui me règle du point de vue des autres, mais une morale réellement éthique, à savoir comment moi, je peux...
Vous voyez, je dirais, pour résumer un peu ce que j'ai essayé de dire, que le messianisme, à l'origine, c'est l'huile, c'est un rite d'onction, ensuite c'est un espoir, et aujourd'hui c'est le droit. Regardez par exemple l'article 24, entre autres, de la déclaration, quand on la lit de très près, est très savoureuse. Ce n'est pas seulement des droits abstraits comme on croit, ça a été très élaboré pour être la représentation, non pas d'une utopie, mais des conditions d'une existence humanisée. Je vous cite juste l'article 24. « Toute personne a droit au repos et au loisir, et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques. Hein » C'est ça, les droits de l'homme. Hein, et il y en a beaucoup d'autres tout aussi savoureux. Hein, le droit à l'éducation, le droit à la sécurité sociale, hein, etc., etc. Hein. Oui.
Merci. Merci. Une question, une avant-dernière question, oui,
je voudrais
temps, monsieur.
Poser une question. Je signale que.
Pardon.
Oui, je voudrais signaler le René Cassin, l'auteur de le rédacteur.
L'un des rédacteurs. Oui.
L'un des rédacteurs. Oui.
Stéphane Hessel aussi.
Oui. Oui. Alors, il avait une grosse expérience. Il disait. Il faudra attendre 60 ou 70 ans avant que ça s'imprègne, que l'université s'en empare.
70 alors, ans, c'est un chiffre symbolique, ça. Hein?
Alors, il avait une grande expérience. C'était le président des combattants alliés et ennemis de la guerre de 14. Ça a commencé à se diluer en 1930, 3 ans avant l'arrivée d'Hitler. À Munich, il a dit, moi, je ne suis pas contre Munich, je ne suis pas pour Munich à cause de ces faits-là. Alors, je viens à ma question.
Oui, soyez bref, parce que...
Oui, il y a des gens qui sont... qu'on peut penser messianiques.
Oui.
Monsieur Nietzsche, il est mort il y a 100 ans, j'ai relu pendant 2 mois les excellentes traductions qu'il y a à la Bibliothèque nationale, on en a ici. Malheureusement, il est mort fou, 20 ans, avant sa mort,
Quelle est votre question, excusez-moi, la question est celle-ci.
Qu'est-ce que disait Nietzsche? Sérénité, désintéressement, responsabilité. Est-ce que ça rejoint le messianisme? Deuxièmement, je voudrais avoir par rapport, Leibniz, c'est sa paix perpétuelle. Est-ce que ça a un rapport avec le messianisme, éventuellement?
Mais écoutez, c'est la même question que celle de madame, et donc j'y réponds à la fois. Bien évidemment... nous l'avons indiqué ensemble, et je n'ai pas été le seul à indiquer, ce que vous appelez l'humanisme, ou ce qu'on trouverait donc dans la philosophie moderne, d'une manière générale, que ce soit Kant ou Nietzsche, qui sont beaucoup plus proches qu'on ne le croit parfois, c'est justement l'émergence cette modernité qui n'est pas qui ne doit pas être appropriée par qui que ce soit, qui est autonome, mais qui est qui répond à l'attente des traditions, hein, et c'est pourquoi j'ai cité cette très belle phrase de Malachi, hein, parce que d'une certaine manière, toute cette modernité n'aurait pas été possible, hein, le règne de la raison, comme on dit, n'aurait pas été possible sans la préparation mythique et religieuse qu'il a fondée, hein, et l'un et l'autre, l'humanisme moderne et les traditions mythiques et religieuses, doivent apprendre à se reconnaître l'une dans l'autre mutuellement. Quant à René Cassin, vous pouviez aussi rappeler qu'il était, entre autres, président de l'Alliance israélite universelle, hein, et que, tout en dirigeant le Conseil d'État et en faisant de la résistance, et tout cela fait évidemment un, puisque se référer à l'héritage biblique, c'est d'abord et avant tout avoir le sens de l'universel, d'abord dans la pratique juive, vous parliez de la pratique rabbinique, je rappelle juste le rite qui consiste à allumer 2 bougies le vendredi soir chez les juifs pratiquants, et selon la tradition, 1 pour Israël, pour le peuple d'Israël, pour la préservation du peuple d'Israël, charité bien ordonnée commence par soi-même, et l'autre pour le monde, car il n'y a pas de vie d'Israël sans vie de l'humanité, hein, et il n'y a pas non plus de progrès de l'humanité sans témoignage hein, que le peuple d'Israël assume avec d'autres, avec les chrétiens, avec les musulmans, avec d'autres spiritualités, avec des affirmations laïques, hein, pensez au fameux athéisme de Sartre, hein, dont on pourrait faire tout un poème, hein, parce que cet athéisme était entièrement fidèle à la tradition biblique. Hein. Il y a une manière moderne, comme dit Léo Strauss, d'être athée, qui est très exactement une probité tout à fait dans l'esprit biblique, hein, dans la mesure où on ne veut pas d'illusions, on veut des responsabilités. Alors, ces différentes manières d'assumer le sens de l'universel et le sens éthique, hein, convergent dans l'effort pour faire avancer l'évidence d'un monde plus humain. Hein, ce qui, bien entendu, n'est pas, ne tombons pas dans un positivisme ou dans un idéalisme niais, hein, ce qui est très difficile, peut-être presque impossible, hein, mais alors là je vous renvoie justement au récit biblique qui n'est jamais édulcoré. Hein, les choses ne se feront pas facilement et elles sont simplement, c'est pourquoi le messianisme est une croyance, que c'est possible, sur la foi de l'inspiration de l'inspiration biblique, la croyance que c'est possible, mais au prix d'une grande exigence et de luttes qui parfois peuvent devenir désespérantes, éventuellement. Oui.
Merci beaucoup. Dernière question, monsieur en bas à droite.
Oui. Vous avez parlé d'éthique et dans la modernité, on a créé, comme vous le savez, des comités d'éthique.
Oui.
Pour que l'éthique soit le mieux rendue, en somme, ces comités d'éthique sont composés de gens
sages.
De gens sages, d'une part, non, et de religions différentes, et de laïcs, etc. Ce qui montre bien que même quand il n'y a pas un rapport de force, l'application concrète d'une éthique n'est pas universelle. Et c'est ça qui est très, très, très ennuyeux, finalement, dans le message biblique, c'est qu'il semblerait que la conception d'un message à valeur universelle soit présente.
Je crois que votre question est un petit peu embrouillée parce que l'universalité du message n'implique pas son uniformité. Hein? Justement, il n'y a pas. C'est peut-être l'une des formes de la polémique au Moyen Âge entre la pensée rabbinique et la dimension catholique du christianisme. Hein? Que la catholicité a risqué à certaines époques. De conduire à l'idée de l'unicité d'un message. Mais ça, c'est même pas chrétien, c'est catholique. Hein? Et encore, concerne une catholicité à beaucoup d'égards dépassée. Hein? Chacun apporte sa pierre, hein, avec une conscience plus ou moins aiguisée de la complémentarité des positions.
Merci beaucoup. Et merci encore, Claude Biermont.